Des rafales français ont intercepté et raccompagné gentiment des avions Sukhoi S-24 russes qui avaient transgressé l'espace aérien des pays baltes, donc au-dessus de la Lituanie. Donc les rafales les ont interceptés et poussés vers la sortie. Je vais vous en dire plus là-dessus rapidement. Mais aussi, je vais m'interroger, me poser la question, parce que je me posais sincèrement la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si les avions refusaient d'obéir, refusaient de se faire escorter? Est-ce qu'il y a des conditions d'engagement claires, précises? Et c'est là-dessus que je vais revenir avec un autre fait d'actualité sur l'exercice Orion, qui est un exercice de grande ampleur qui a été mené par la France et qui a montré toutes les capacités de la France à diriger une alliance de type OTAN, mais en se passant des États-Unis. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, avec une France qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de l'OTAN version européenne. Allez, on regarde tout ça. Voici donc l'article du Parisien qui nous rapporte cette information. Les rafales français de l'armée de l'air ont intercepté et escorté deux appareils russes Sukhoi S-24 ayant pénétré sans plan de vol dans l'espace aérien des pays baltes. Voyez le tweet qu'a publié l'état-major des armées avec la photo des Sukhoi en question. Lituanie, accompagnement de deux SU-24 ayant pénétré sans plan de vol dans l'espace aérien des pays baltes. Intervention immédiate des rafales de l'armée de l'air et de l'espace. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas cliquer pour vous les montrer en gros plan. Mais ils nous ont fourni des photos. Donc ça s'est passé au-dessus du ciel de la Lituanie, où des avions français sont actuellement déployés dans le cadre de la mission de surveillance aérienne de l'OTAN dans la région. Il y a 4 rafales en tout, hein. C'est pas énorme, hein, mais c'est déjà ça. Côté français, en tout cas, il y a 4 rafales qui sont présents en Lituanie pour protéger le ciel aérien des pays baltes des incursions russes, donc des avions de renseignement, des bombardiers même, parce qu'il a été question de bombardiers, mais c'est souvent des avions de renseignement, et pourquoi pas des drones. Donc, comme je l'ai dit, ça vise à protéger leur espace aérien, parce que les pays baltes, sachez-le, ne dispose pas de moyens aériens suffisants pour assurer seule cette défense. Donc voilà, le but d'une alliance, c'est ça. Alors, selon la vice-ministre lituanienne de la Défense nationale, Vitalija Zumerienė, désolé, hein, les noms sont assez compliqués. La mission de police aérienne de l'OTAN est l'un des exemples les plus marquants de la défense collective de l'Alliance. Aujourd'hui, face à une situation sécuritaire toujours complexe dans la région, la présence des alliés en Lituanie est plus importante que jamais. Les récents incidents impliquant des drones dans les pays baltes, parce que oui, il y a eu des incidents précédents, je vais en parler tout à l'heure, et en Finlande, soulignent la nécessité de renforcer la défense aérienne et d'assurer une présence alliée continue et solide dans la région. Et justement, je voulais vous parler d'un autre exemple, parce que mi-avril, donc c'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 2 semaines, hein, l'armée française avait déjà communiqué sur des interceptions effectuées depuis la base aérienne de Siolio en Lituanie. Et l'armée de l'air avait même publié une vidéo où on voyait, assez stylée, où on voyait les rafales français qui traquaient un avion de renseignement électronique russe aux côtés d'un chasseur SU-30SM. La vidéo, je vais vous la montrer tout simplement. La voici. Ils ont bien mis ça en scène. Voilà, donc les avions repérés, traqués, ciblés. On voit bien le chasseur et l'avion d'enseignement, puis le retour. Le retour à la base. Voilà pour cette actu. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de me poser la question, et là je reviens à mes notes. Parce que là on est dans une mission classique de police du ciel qui est menée dans le cadre de l'OTAN, avec des rafales ou autres, hein, qui interceptent des appareils russes qui couramment transgressent les limites par provocation ou pour prendre du renseignement. Ils les identifient visuellement et ils les escortent hors de la zone. Très bien. Mais la question que je me pose, elle est peut-être idiote, hein, mais et si ces avions refusaient d'obéir? Je me dis, là par exemple, si ces avions avaient refusé de rebrousser chemin, est-ce que les rafales auraient pu ouvrir le feu? On aurait parlé quand même d'un avion français qui tire sur un avion russe. Eh bien, la réponse est non. La réponse est non. Personne ne tire, sauf cas extrême. Et il y a des procédures très claires là-dessus. Premièrement, sachez que lors de ces missions d'escorte, On ne donne pas d'ordre aux avions russes, c'est-à-dire qu'on ne leur dit pas dégager. On vient juste signaler notre présence, on se positionne, on montre qu'on est là, on montre qu'on surveille. C'est un peu du langage non-verbal. Tant qu'il n'y a pas de menace directe, on reste dans l'intimidation, c'est-à-dire un avion russe qui traverse brièvement l'espace aérien, même en violation, il va pas être abattu automatiquement, évidemment. On va juste se contenter de se signaler et de le pousser dehors. Quant au tir, donc le scénario ultime, il n'arrive que si la situation devient franchement dangereuse. Alors plusieurs cas de figure. Un, l'avion refuse de sortir et adopte un comportement hostile, ouvertement, avec des verrouillages radars, des manœuvres agressives. Là, il y a un problème. Et là encore, il y a toute une chaîne de commandement, hein, c'est pas le pilote qui décide. Soit il menace une cible au sol, ou alors il ignore toutes les procédures d'interception et il se rapproche d'un site sensible. Et là aussi, comme je l'ai dit, oui, théoriquement, on peut tirer, mais il y a des règles d'engagement très strictes. Et là, ce serait vraiment le scénario catastrophe, sachant que ça n'arrivera probablement jamais, parce que des deux côtés, tout le monde connaît les règles du jeu, hein. On se jauge, on essaie de montrer ses muscles, on vient piocher du renseignement. Voilà, ça se fait des deux côtés. Donc, pas de tir, en tout cas, théoriquement, on ne peut pas tirer comme ça sur un avion russe sous prétexte qu'il transgresse simplement un espace aérien. J'avais un dernier sujet à vous parler. Il concerne l'exercice Orion. Alors, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un gros exercice militaire qui a été organisé par la France. Le plus gros exercice militaire français depuis des décennies, c'était assez conséquent. C'est tout simplement un exercice qui vise à s'entraîner pour une guerre grandeur nature et de haute intensité contre un adversaire du même niveau. Donc là, on parle plus de mener des OPEX comme la France sait très bien le faire. Là, on parle d'une guerre de haute intensité contre un adversaire de même niveau. Lisez entre les lignes, la Russie, bien évidemment. L'exercice Orion, c'était un exercice interarmé, donc terre, mer, terre, air, mer, cyber, spatial, avec des alliés. Hein, donc c'était pas juste un exercice franco-français. On avait des alliés européens à nos côtés, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni. J'ai plus la liste. Exact. C'est donc un scénario fictif mais très réaliste. Un pays attaqué et ensuite une coalition menée par la France. C'était le but de l'exercice. C'était de tester une coalition. Bon, c'était un exercice à l'initiative de la France, mais ça devait simuler une coalition menée par la France avec une montée en puissance vers une guerre de haute intensité. Donc, j'espère qu'on ne se trompe pas sur ce plan-là parce que la guerre a changé, hein, vous l'avez vu, elle est devenue asymétrique et que même en Ukraine, on utilise beaucoup des armes de faible coût de type drone. J'espère que ça a été pris en compte. En tout cas, c'est de plus en plus pris en compte au sein de l'armée, mais on a beaucoup de retard là-dessus. Ce qui est intéressant, justement, je vous l'ai dit dans cet exercice Orion, c'est que la France a un rôle de nation cadre. C'est au sein de cet exercice, en tout cas, la France qui commande la manœuvre, elle n'est pas juste une figurante, elle déploie tous ses moyens lourds, hein, les chars, les rafales, sa marine, ses forces spéciales, ses sous-marins, tout ce que vous voulez, et elle teste donc ici sa capacité à mener une guerre majeure. Elle veut prouver, tout simplement, qu'elle peut mener une coalition et pas simplement suivre les Américains. Et je trouve que c'est l'une des questions les plus intéressantes du moment. Moi, c'est ma petite marotte du moment, c'est la France qui clairement est en train de montrer ses muscles pour prendre le lead de l'OTAN version européenne, si vous voyez ce que je veux dire, puisque nous, en tant qu'Européens aujourd'hui, la menace principale, disons, et je parle de géopolitique, hein, bien sûr, je ne parle pas de politique, la menace principale et directe, c'est la Russie. Hein, c'est là que ça tape, c'est en Ukraine, c'est à côté de chez nous, c'est vers la Russie que sont tournées les inquiétudes des pays européens de l'OTAN. Or, un autre pays de l'OTAN qui s'appelle les États-Unis, lui, actuellement, son principal point d'intérêt, c'est plus du tout l'Ukraine et la Russie, c'est le Moyen-Orient avec l'Iran et la guerre israélo-américaine et la montée en puissance de la Chine. C'est ça qui obsède les États-Unis et c'est ce qui fait que l'OTAN commence à se fendre en deux. On a d'ailleurs eu une réunion de l'OTAN qui ne comptait que des pays européens. C'était une première. Et dans ce scénario où les États-Unis non pas sortent de l'OTAN, parce que ça reste quand même assez improbable, mais les États-Unis se désintéressent un peu de l'Europe, eh bien la France a toute sa place, a tout son rôle à jouer, peut prendre toute sa place. Et là, au sein de cet exercice, elle a montré qu'elle était capable de mener cette coalition. Moi, je trouve cette perspective très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais vous montrer justement, alors c'est le général Palamedes qui résume cet exercice. Je vais revenir ici. Le général Palamedes qui résume bien la bonne tenue de l'exercice Orion. Je vais vous mettre ça tout de suite. C'est passé sur LCI.
Est-ce que le sursaut, le fameux sursaut militaire français que vous appeliez de vos voeux est là?
Oui, il est là incontestablement. Et cet exercice, c'est mon avis, parce que j'étais commandant suprême de l'OTAN pour la transformation, j'étais responsable des grands exercices que nous avons lancés en 2014. Donc voir ceci, la France qui tient pleinement sa place au sein de l'OTAN, qui est même leader, c'est très bon pour l'OTAN, c'est très bon pour les Européens aussi, parce qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, avec ou sans les Américains, et il faut qu'on montre notre crédibilité. Parce que c'est beau à voir, on voit qu'on a une armée qui est en pleine modernisation, des hommes et des femmes qui sont motivés, et je crois qu'il faut le montrer, et il faut vraiment s'en satisfaire. C'est pas la portée de tous les pays aujourd'hui.
Est-ce que le sursaut,
je trouve que c'est un super discours, hein. Il a tout résumé. La France a su tenir son rôle. On est un pays qui a une armée extrêmement moderne, extrêmement puissante, et j'ai fait une vidéo entière sur cette chaîne là-dessus. On a su tenir notre rôle, et ça fait plaisir. Dernière petite info. Pour terminer, ça nous est rapporté par Le Figaro. Bon, la vidéo, c'est de l'IA. Hein. Je sais que c'est assez bluffant, mais c'est de l'IA. Ça nous a été rapporté par Le Figaro. Les jeunes en France prennent d'assaut, littéralement, les bureaux de recrutement militaire. Tant de volontaires se sont inscrits pour défendre le pays contre la Russie qu'ils ne. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les recrute en ciblant directement la Russie, mais bon, c'est dans la Russie, en tout cas, c'est dans toutes les têtes. Qu'il ne reste plus une seule place de libre dans l'armée, c'est ce que nous rapporte donc le Figaro. Le nouveau programme de service lancé en 2026 a provoqué une forte augmentation de l'intérêt chez les jeunes, donc de 18 à 25 ans. Le nombre de candidatures a déjà dépassé les places disponibles dès les premiers jours. Environ 22% des candidats sont des femmes, ça doit être une stat aussi intéressante. Donc voilà, il y a un regain d'intérêt pour la force armée. Et c'est malheureusement, parce qu'on ne va jamais s'enthousiasmer de ça, même si ça fait plaisir au niveau national que des jeunes veulent s'engager pour défendre la France, mais c'est dû au contexte international qui explose de tous les côtés. J'ai vu d'ailleurs récemment que Trump voulait s'emparer de Cuba maintenant. La guerre commence à devenir et déjà mondiale. Il y a une guerre de haute intensité déjà parmi toutes ces guerres, c'est-à-dire la Russie contre l'Ukraine. Donc c'est un signal fort qui a été lancé, et le fait que la jeunesse française réponde à l'appel fait quand même plaisir. Voilà pour cette revue de presse, moi je vous dis à très vite.